Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Il n'y a encore ce soir essentiellement que des oiseaux qui volent dans le ciel, au regard du nombre infime d'avions abattu en plein vol par le Covid-19. Parce qu'il n'y a plus de passagers en raison des restrictions de voyage importantes et des protocoles sanitaires drastiques. Mais pas seulement. L'aviation est la cible d'un nouveau phénomène apparu avant le coronavirus, mais qui a été amplifié par la crise sanitaire. C'est le flag scam, que l'on peut traduire par l'avion bashing et en bon français par critique de l'aviation. Un mouvement né en Suède et qui essaime partout dans le monde, incitant à renoncer à l'avion pour des raisons écologiques. Alors comme le pendule de Foucault prouve que la Terre est ronde, l'écologie a-t-elle raison de vouloir interdire les avions de tourner autour? Autrement dit, l'aviation va-t-elle être au crash à cause, va-t-elle être amenée au crash, pardon, à cause de l'écologie? C'est la question du débat du jour sur RFI.
RFI.
Bonsoir Pauline Boyer.
Bonsoir.
Porte-parole de l'association Alternatiba, qui est un mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique. Pour vous, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, il faut réduire donc le trafic aérien, lutter contre le développement des aéroports. Et il y a une douzaine de jours, vos militants, avec ceux d'Action non violente COP21, ont fait irruption sur plusieurs plateformes aéroportuaires. Bonsoir Catherine Monory.
Bonsoir.
Présidente de l'Aéroclub de France, précédemment directrice du Musée de l'air et de l'espace. Avec Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde avec Solar Impulse, l'avion solaire, vous avez publié une tribune dans le journal du dimanche pour défendre l'aviation, intitulée « Cessez l'avion bashing et la tentation du bouc émissaire pour construire l'aviation de demain ». Jean-Michel Bossuet, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint d'Aviation et Pilote, qui est un magazine de référence dans le monde de l'aérien. En une, dans le prochain numéro, un petit avion, vapeur SD4 avec un moteur qui consomme de l'essence comme une voiture de l'essence sans plomb. Catherine Monory, est-ce que vous accusez les écologistes de dénigrement qui frôle le fanatisme, comme j'ai pu le lire dans la tribune que vous avez signée dans le JDD?
Ah d'accord. Alors, je voudrais quand même commencer par vous dire que je partage absolument les préoccupations environnementales dont nous parlons et qu'il n'est pas question de négliger le poids de l'aviation dans le réchauffement climatique. Mais il ne faut pas non plus s'estimer dans l'impact environnemental, jusqu'à la crise du Covid, parce que nous sommes bien en dessous. Toutes les études sérieuses s'accordent pour dire que le transport aérien est responsable de, allez, au maximum 3% des émissions de CO2 à l'échelle globale. À titre de comparaison, le transport routier mondial représente 17% et le transport maritime 3%. Alors, quand je parle de dénigrement irrationnel et d'erreur de cible, je voulais vous comparer par exemple la production de CO2 de Netflix, YouTube et Facebook au niveau mondial est aussi importante que toute la production du monde aéronautique. Ça me paraît une erreur donc de cible, et on pointe du doigt l'aviation alors que, quelque part, c'est le secteur qui, le premier, a pris des engagements précis, et depuis des décennies, je ne vais pas revenir sur tout, mais les émissions...
T'en parler un peu plus loin dans cette émission, Catherine Monory. Je voudrais avoir la réaction de Pauline Boyer sur les chiffres que vient de donner Catherine Monory. Elle nous explique donc que les émissions de CO2 par passager ont diminué de 80% au cours des 70 dernières années et ne pèsent que 3% des émissions globales dans le monde. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord?
Oui, c'est 4 à 5% des émissions globales dans le monde, mais tout à fait autant que le secteur du numérique. Et les émissions de gaz à effet de serre ont effectivement diminué par passager, mais on en a profité pour avoir beaucoup plus de passagers qui prennent l'avion. Donc c'est pour ça que les émissions, le fait de faire des progrès technologiques ne réduisent pas de facto les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on fait voler plus de personnes.
Mais est-ce que vous ne devriez pas les manifester devant Google et les GAFA plutôt que devant les aéroports?
Mais on le fait aussi. En fait, on n'est pas pointé sur le secteur de l'aérien. On a un problème global à résoudre. La question étant, comment fait-on pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre assez drastiquement pour qu'on puisse respecter l'accord de Paris? Et c'est dans tous les secteurs, à la fois le logement, l'agriculture, les transports et donc une partie de l'aérien aussi.
Jean-Michel Bossuet, est-ce que l'aviation est devenue l'otage d'une idéologie écologiste qui prône la décroissance comme seule solution aux enjeux environnementaux?
Je ne le souhaiterais pas. Parce que je suis assez d'accord avec Catherine Monory, l'aérien fait quand même pas mal d'efforts pour se décarboner. ils ont pris conscience déjà depuis un bon bout de temps qu'il fallait évoluer sur ces sujets-là. Et on est évidemment bien d'accord avec vous qu'il faut aller vers une planète plus propre et plus décarbonée. Simplement, c'est juste une histoire de timing. Les constructeurs ont pris conscience depuis un certain temps, je l'ai dit, qu'il fallait changer leur feuille de route. Mais vous le souhaitez le plus vite possible, alors qu'il y a un temps technologique qui permet de
quand vous dites vous, Jean-Michel Bussuet, vous vous adressez à Pauline Boyer, donc, qui est porte-parole de l'association Alter Natiba. Catherine Monoury, en quelque sorte, vous dites que la France ne doit pas scier la branche sur laquelle elle est assise.
Oui, parce que où je ne suis pas d'accord avec Pauline Boyer, c'est que par exemple, le secteur aérien, là, il s'est engagé à une stabilisation des émissions mondiales de CO2 à partir de 2020. C'est-à-dire que nous n'allons pas augmenter malgré l'augmentation des passagers, et ce sera même diminué de moitié encore pour l'instant dans les projets. Mais l'idée n'est vraiment pas d'arrêter de voler, mais d'arrêter effectivement de produire du CO2. Il faut absolument profiter de cette crise pratiquement comme d'une opportunité pour aider le secteur à accélérer la transition vers le transport décarboné. Et puis, pour cela, il faut généraliser cette prise de conscience dans tous les cercles de l'aviation et du système pour la rendre efficace.
Mais
de rendre compte que tout est interdépendant, et comment est-ce qu'on va faire évoluer ça pour le monde, pour transmettre à nos enfants. Ceux qui abordent les métiers de l'aérien maintenant sont totalement conscients des enjeux. Et on doit leur préparer cette trajectoire transitionnelle positive. Quoi.
Pauline Boyer.
Oui, on est totalement d'accord qu'on a besoin de décarboner nos modes de transport. Mais le problème, c'est qu'on a un impératif temporel de l'urgence climatique. Et donc, si le secteur aérien reprend sa croissance au niveau du trafic aérien qu'il avait avant le Covid, ça veut dire que le budget carbone de la France, en 2050, sera l'intégralité du budget aérien. Ça veut dire que si on prend tout juste pour garder le trafic aérien tel qu'il était avant le Covid, eh ben on peut plus se loger, on peut plus se nourrir, on peut plus manger.
Oui, parce que vous citez actuellement, il faut savoir qu'il y a 4 milliards de personnes qui prennent ou qui prenaient l'avion tous les ans. Et elle devrait être 16 milliards en 2050, notamment avec l'explosion des classes moyennes en Inde et en Chine. Et c'est ce qui fait que vous dites qu'il y a urgence aujourd'hui, c'est ça?
Il y a urgence aujourd'hui à prendre des mesures. Aujourd'hui, il y a des projets d'avions qui émettraient moins de gaz à effet de serre, qui seraient possibles sur les longs et moyens courriers. Mais le temps de les développer, on peut pas se dire on va développer ça et donc on ne fait rien en attendant. On a besoin déjà de prendre des mesures qui vont permettre la réduction de moitié du trafic aérien d'ici 20 ans.
On a tous regardé le ciel avant le Covid, hein, parce que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, ce ciel bleu avec des belles, je suis désolé, ça peut être beau, des belles traînées d'avions, ouais. Traînées de condensation, c'est donc l'air chaud des réacteurs qui sort. On se dit, c'est de la condensation, c'est de la vapeur d'eau, finalement c'est pas très dangereux. En quelques mots, Pauline Boyer, est-ce que c'est néfaste d'un point de vue écologique?
Tout à fait. Les cirrus, donc les belles traînées blanches qu'on voit dans le ciel, c'est de la vapeur d'eau qui est condensée avec des particules des hydrocarbures et qui augmente l'impact carbone de l'avion. Il y a beaucoup de chiffres qui sont à trouver partout sur l'empreinte carbone de l'avion et ça, on aboutit à 7,3% des émissions de gaz à effet de serre de la France qui sont dues au secteur aérien, ce qui n'est pas négligeable.
Jean-Michel Bossuet, donc je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint d'aviation et pilote, ça fait des années que vous suivez ce secteur. Pendant longtemps, on a même pas imaginé que ces traînées de condensation pouvaient être polluantes.
Non, personne n'y pensait.
Il y avait
vraiment
un voile pudique qui était jeté
sur... À part les constructeurs qui y pensaient un peu, mais globalement, effectivement, personne s'est vraiment soucié de ça. Encore une fois, on est quand même bien d'accord sur le fait qu'il faut décarboner. C'est juste un problème de timing. Et votre timing, il va imposer vraiment une réduction drastique du transport aérien, qui est un secteur économique fort, important, performant pour la France et l'Europe. Et ça va vraiment le mettre en danger. C'est pour ça qu'on aimerait plutôt les constructeurs aimeraient avoir un peu plus de temps pour mettre au point des appareils qui seront effectivement moins polluants. Alors mais vous exigez oui. une disparition, une transport aérien ou pas, enfin une transition au pas de charge, ce sera pas possible. Le transport aérien va mourir.
Mais moi, si j'avais du temps, je vous en donnerais, mais c'est pas moi qui décide du temps. En fait, dans le dernier rapport du GIEC qui est sorti en 2018, les experts scientifiques du climat disent chaque jour compte, chaque dixième de degré compte et chaque action compte. Et chaque dixième de degré compte. Parce que à chaque dixième de degré d'augmentation de la température de la Terre, donc qui sont liées aux émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ce sont des zones désertiques, des zones de la planète qui deviennent désertiques. Si on continue comme ça, d'ici la fin du siècle, il y a des zones entières de l'Asie qui seront inhabitables, avec tous les problèmes de migration de population que ça produit, la multiplication de catastrophes naturelles. Donc là, je ne sais même pas si notre questionnement sera de continuer à voler dans le ciel. Donc on a des décennies de retard parce que les dirigeants économiques et politiques n'ont pas pris les bonnes décisions quand on a eu les premiers rapports sur l'état du climat et sur la trajectoire vers laquelle on est en route. Et donc, je comprends que ce soit difficile, surtout pour des personnes qui sont passionnées par ce sport, parce que Madame Manori, c'est vraiment un sport.
Elle a été deux fois championne du monde de voltige, Catherine Manori.
Mais c'est magnifique et c'est un art et je le comprends. Mais là, on parle de l'aviation de masse. On va pas dans l'anecdotique. C'est comment, en tant que société, on arrive à changer nos modes de transport.
Catherine Manori.
Oui, alors, ne parlons pas de mon aviation, je pense aussi à l'aviation et à toute cette histoire de l'aviation. La France est une nation phare du monde de l'aviation, on en a besoin. Mais si vous regardez, par exemple, l'étude de la Drawdown Review, je vous invite à y aller, qui a listé récemment, et avec des tas de chercheurs internationaux, et c'est une étude très sérieuse, tous les postes où il est possible d'économiser les émissions de CO2. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous devons prendre notre part. Mais dans cette liste, on pointe toujours les avions en premier pour réduire ces émissions. En numéro un, par exemple, il faut réduire les déchets alimentaires parce qu'un tiers de ce qui est produit dans le monde est jeté, par exemple. Et l'aviation, avec ce poids surévalué, pour essayer, pour qu'on puisse faire quelque chose, elle est en 39e position. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que nous devons prendre notre part, mais l'idée que vous en faites, je crois, est déformée, surévaluée. L'aviation est absolument nécessaire. Elle a déjà fait face à des ruptures majeures. Et c'est dans son ADN que d'évoluer. Nos pionniers ont évolué de façon extraordinaire. Elle a relevé un premier défi qui était inouï, c'était la sécurité. Au début, c'était quand même très risqué de prendre un avion. On est maintenant dans le moyen de transport le plus sûr. On a besoin de l'avion pour tout. C'est pour les échanges culturels, pour le rapprochement entre les peuples, mais aussi parce que c'est un formidable outil en cas de crise. Pendant le Covid, mais Dieu merci, nous avons eu les avions pour pouvoir nous amener, par exemple, des masques de chips, par exemple, pour emmener des soignants. Mais nous avons besoin des hélicos. Il faut soutenir la recherche et le développement pour améliorer de façon globale les niveaux de service à la population. On a besoin des hélicos de secours. Vous voulez avoir des vieux hélicos d'un nombre d'années que je ne connais pas, qui vont faire de bruit, qui vont finir par être dangereux. On a besoin d'eux.
C'est toute la question de l'écologie de conservation et de l'écologie de progrès. Pauline Boyer, vous reconnaissez dans quel type d'écologie ?
Non, je pense pas que ce soit la question de l'écologie de conservation de progrès. Nous, on n'est pas contre le progrès. Et au contraire, je suis complètement d'accord qu'on a besoin de... Il y a beaucoup de recherche et développement qui peut être encore qui doit continuer. Là, le débat qu'on a, c'est sur l'usage qu'on fait de l'avion. Il faut pas oublier que 80% des habitants de la planète n'ont jamais pris l'avion. Donc on parle là de 20% de l'humanité qui prend l'avion régulièrement, ou pas, mais qui a déjà pris l'avion. Et effectivement, on doit aller vers un usage d'intérêt général, évidemment, importer des masques, transporter des organes, etc. Mais il y a toute une pratique de l'avion qui est permise aujourd'hui, qui doit être remise en question au lieu de l'urgence climatique.
Est-ce que vous êtes d'accord pour accorder une sorte de crédit, des miles, on va dire, une sorte de miles, c'est-à-dire qu'on ait le droit de ne parcourir que tant de kilomètres dans l'année en avion, ce qui permettrait aux gens de se concentrer sur l'essentiel, de pas prendre l'avion comme ils prendraient, on va dire, leur bicyclette pour du pur plaisir. Est-ce que c'est une idée qui court, on voit ça sur les réseaux sociaux, d'appliquer, de restreindre le nombre de déplacements de chaque passager.
Alors il y a plein de, enfin, je pense que c'est un problème à prendre de manière globale. C'est comment est-ce qu'on fait pour déjà changer l'imaginaire du voyage et se dire que faire un week-end dans une capitale européenne pour passer 2 jours entre potes, bah peut-être que ça c'est plus possible à l'heure de l'urgence climatique. Prendre des vacances à l'autre bout du monde pour une semaine, ça aussi peut-être qu'il faut se remettre en question par rapport aux émissions de gaz à effet de serre que ça impacte.
Pour rebondir ce que vous dites, de compléter, on appelle ça donc Flextime, l'aviation bashing, ça vient de Suède, et en Suède, le fait d'avoir honte de prendre l'avion pour un certain nombre de Suédois, je crois que ça a fait baisser le trafic aérien en ligne intérieure de quelques pourcents.
Pour cette honte de prendre l'avion, il faut aussi rappeler que les Suédois voyageaient beaucoup plus que les autres. Hein. Ils voyageaient au moins 3 ou 4 fois plus que la moyenne européenne. Donc, on peut peut-être penser qu'ils ont eu un effet de lassitude. Là, je voulais revenir sur vos chiffres en disant 80% des gens sur la planète ne prennent pas l'avion et 20% le prennent. D'abord, vous faites un amalgame entre des pays qui sont très riches et des pays qui sont très pauvres. Donc ces chiffres-là n'ont pas vraiment de fondement. On est en France. Donc l'action que vous souhaitez mettre en place, elle est française. Or, si on regarde bien, 60% des Français ont pris l'avion. Là, on n'est plus dans les 20-80. Il y a beaucoup de gens qui ont pris l'avion et qui l'utilisent à la fois pour leurs loisirs, pour se rapprocher de leur famille, pour leurs activités professionnelles. Donc, si vous souhaitez vraiment réduire drastiquement le secteur aérien, vous allez provoquer une catastrophe économique, parce que ce secteur porte quand même à peu près 1 million d'emplois. Oui. Quoi.
Et c'est 4% de la richesse nationale, un peu plus de 4%, hein, Catherine Monory.
Oui, c'est ça.
Donc, comment vous faites en disant il y aura des zones désertiques, mais nous, après, la problématique économique, sociale, elle est en France. D'autant qu'en plus, on est dans un secteur extrêmement concurrentiel. Donc, ce que vous allez pouvoir appliquer sur les compagnies françaises, à la limite, ça va pas s'appliquer sur les compagnies qui sont dans notre environnement.
Appliquer, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Une taxe, une éco-taxe, on va dire, sur l'aviation ?
Alors déjà, au niveau de la France, 2% de la population la plus riche est responsable de 50% des vols. Donc il y a déjà ça à remettre en place. Enfin, l'avion reste accessible à une minorité de personnes qui ont les moyens. Et c'est même avec les locaux, ça ne change pas fondamentalement cette question-là. Ensuite, au niveau des emplois, effectivement, on a une reconversion à mettre en place, et c'est une de nos revendications de assortir des mesures qui sont nécessaires pour réduire le trafic aérien à un plan de reconversion pensé avec les salariés du secteur, parce que effectivement ça aboutit à des destructions d'emplois, mais qui sont déjà à l'œuvre, parce que là, même si le gouvernement a injecté 15 milliards d'euros dans un plan sur l'aéronautique, il y a quand même aujourd'hui déjà une crise justement à prendre en main, parce qu'il y a des salariés qui sont licenciés dans le secteur aérien. Donc c'est une réponse actuelle qui est alliée à l'urgence globale pour se projeter dans l'avenir.
L'aviation va-t-elle au crash à cause de l'écologie ? C'est le débat du jour sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Catherine Monory, je rappelle que vous êtes présidente de l'Aéroclub de France, vous dirigez le musée de l'air et de l'espace, autrement dit, vous êtes en contact régulier avec les politiques. On a l'impression qu'il est difficile de les suivre, parce que quand on parle d'avion bashing, ce n'est pas simplement le fait de quelques associations écologistes. Il faut quand même bien se souvenir que lors de son interview du 14 juillet, c'est le président de la République qui s'en est pris à l'avion, exprimant sa volonté de réduire les vols intérieurs en avion au profit du train. Alors qu'il y a un an, l'exécutif s'était opposé à toute interdiction de vols intérieurs.
Oui, ce n'est pas très facile à comprendre ou à suivre toujours, mais il faut dire aussi que ce sont les mêmes catégories professionnelles qui prennent le TGV aussi, les trajets en avion sur de courtes distances, ça joue un rôle essentiel pour le développement économique et le désenclavement de nos territoires.
C'est la raison pour laquelle 93 élus de tous bords, députés et sénateurs, mettent en garde contre ce qu'ils appellent, je les cite, des solutions démagogiques et caricaturales qui sacrifieraient encore une fois les territoires les plus éloignés des métropoles et leurs habitants. Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a, non pas un cycle vertueux, mais un intérêt citoyen à maintenir l'aviation dans les territoires, même pour des lignes plus petites, avec des avions qui peut-être consomme certains un peu trop. Pauline Boyer, je rappelle que vous êtes la porte-parole de l'association Alternativa.
Sachant que pour faire un Paris-Marseille, par exemple, il faut 3h15 en train et
une heure en avion.
Voilà, une heure en avion. Sachant qu'un trajet Paris-Marseille, c'est émet 45 fois plus de gaz à effet de serre que qu'un trajet en avion. Donc il y a toutes ces réalités à prendre en compte, et le fait donc il y a déjà beaucoup de possibilités de voyager sans prendre l'avion, et ces lignes-là, nous on demande à ce qu'elles soient fermées mais avec un accompagnement de développement de services ferroviaires améliorés, avec la réhabilitation des trains de nuit, avec des vraies alternatives qui permettent aux personnes de se déplacer.
En attendant, Jean-Michel Bossuet, c'est la mort d'un certain nombre de compagnies régionales. Et fermeture d'aéroport.
Totalement, parce que il y avait un rapport de Madame Coste, une sénatrice, qui avait bien expliqué que sans l'aviation de terroir, sans l'aviation régionale, pas mal de villes et de régions étaient totalement enclavées. Ouais. Et puis moi, je voulais quand même rappeler aussi que on peut pas amener le train partout. Il faut construire des infrastructures, c'est long, c'est très coûteux. Là, une ligne de TGV, ça met beaucoup de temps à sortir de terre. Alors qu'un aéroport, c'est une emprise foncière sur laquelle vous installez des pistes et puis vous faites décoller d'avions vers un autre aéroport. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux.
Après...
Oui, Catherine Monnery.
Qui plus est, c'est vrai que les aéroports... couvre en France la surface globale équivalente à un grand parc national. Les prairies d'aéroports sont protégées et ça s'engage pour la biodiversité. Ça a un certain avantage de cet ordre-là aussi.
Il y a un petit côté écolo.
Par ailleurs, il y a déjà zéro produit phytosanitaire, les animaux ils sont protégés. Ce sont des endroits, c'est beaucoup mieux que si tout ça est recouvert d'immeubles.
Hein. Pauline Boyer fait l'amour, vous écoutez.
Encore une fois, c'est en plus le secteur régional. Donc le secteur régional, c'est probablement le secteur où on arrivera à des solutions décarbonées plus rapides. Donc,
Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a énormément d'argent public qui est investi pour maintenir justement ces petits aéroports, et cet argent public pourrait être utilisé pour la reconversion des emplois. Ça serait réfléchir cet argent vers une transition écologique qui ne va pas se faire si on maintient toutes les lignes qui peuvent avoir une alternative crédible en moins de 5 heures par un moyen de transport qui émet moins de gaz à effet de serre.
Alors face à cette aviation bashing, tout le secteur clame qu'il n'a pas attendu pour agir en faveur de l'environnement. Alors quelques indications, les émissions de CO2 par passager ont été divisées par 5 en 60 ans, ont baissé en moyenne de 2% chaque année depuis l'an 2000. Et puis chaque nouvelle génération d'avions émet 20% de CO2 en moins que la précédente. Les derniers modèles ne consomment plus qu'environ 2 litres aux 100 km par passager, Jean-Michel
Bossuet. C'est ça, absolument. Il y avait Paul Chambaretto qui est titulaire de la chaire Pégase à Montpellier, qui avait expliqué aussi dans son rapport qu'entre 2000 et 2018, il y avait 28% de moins d'émissions de CO2 par passager.
Ça veut dire que le secteur se bouge, le secteur fait des choses. Les aéroports également, même si vous les avez envahis avec vos militants il y a de ça quelques jours, ils se sont engagés à atteindre la neutralité carbone sans compensation des émissions. Alors, d'ici à 2050, vous êtes d'accord sur la première acception de la phrase, mais pas sur la date, je suppose.
C'est la réduction du nombre de passagers doit être de moitié d'ici à 20 ans si on veut rester sur la trajectoire de l'accord de Paris.
Vous en pensez quoi, Catherine Monnery? Vous les fréquentez, tous ces industriels, tous ces professionnels de la profession, j'allais dire. Vous sentez qu'ils sont vraiment engagés dans un cycle vertueux, ou ils ne sont que à faire des propositions qui n'iront pas au-delà?
Je suis persuadée, ils sont totalement engagés. D'ailleurs, il y a eu des propositions d'Airbus relativement concrètes récemment. C'était même la préoccupation majeure. On en parle partout. En ce moment, nous sommes d'accord, nous sommes à nouveau quelque part au pied du mur. Il faut accélérer la transition, ce que je vous disais. Et c'est l'occasion de le faire, mais je suis persuadée que l'industrie française, tellement, et son histoire, est tout à fait capable de prendre ce tournant écologique, technique. Une énergie terrible est mise. De toute façon, il y a déjà 2 milliards dans la recherche et le développement mis à la fois par les compagnies aériennes, mis par les industriels tous les ans uniquement pour ça. En ce moment, ça avance à pas de géant. On pourrait presque souhaiter que ce soit prêt à vendre. L'avion à hydrogène est prévu pour 2035. Il était pour 2050. On est, vous savez... Qui peut savoir exactement ce qui va se passer? Nous
vous
sommes
faites,
encore dans la
recherche. Vous faites allusion à Airbus qui présente un projet de moyen courrier zéro émission.
Oui.
Zéro émission, c'est un peu la Zoé de Renault, mais avec des ailes, propulsé à l'hydrogène vert.
Oui, c'est l'idée d'arriver aux zéro émission. Et je pense qu'on y arrivera. Des pistes vont s'ouvrir, d'autres vont se fermer. On est encore dans la recherche. Si on avait la solution, l'avion serait déjà construit.
C'est ça.
Mais... Il va être fait, c'est certain.
Ça vous laisse insatisfaite, Pauline Boyer ?
Mais c'est ça, si on avait la solution, il serait déjà fait. L'avion à hydrogène est pour l'instant un projet de recherche et développement. Ce n'est pas un projet, c'est un sujet de recherche et développement et pas un sujet de transition écologique.
Alors, il y a quand même des avions électriques. Je pense à cette start-up Aeron qui est basée à Saint-Cyprien, qui développe un avion électrique à base d'hydrogène, d'ailleurs.
Oui, mais aujourd'hui, si on attend, si on laisse reprendre la croissance du trafic aérien comme avant le Covid, en attendant, en se disant, on attend d'avoir l'avion à hydrogène pour après réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on ne sera pas du tout dans le timing de l'urgence climatique. C'est maintenant, on réduit le trafic aérien et on verra dans quelle mesure on arrive à développer l'avion à hydrogène. Il faut 20 ans pour renouveler une flotte d'avions. Donc on arrive en 2050 et on n'est toujours pas dans les clous par rapport à l'effort que chaque secteur doit faire en France pour respecter l'accord de Paris et protéger l'avenir des générations futures.
Dans l'immédiat, les petits ruisseaux faisant les grands fleuves, Jean-Michel Bossuet, il y a des mesures simples. Je pense à des voies aériennes plus directes, je pense à des approches
des optimisations de trajectoire.
Tout ça, ça permet d'économiser énormément de kérosène.
En Suède, je crois qu'il y a eu un vol, ce qu'on avait appelé un vol parfait, où toutes les trajectoires avaient été optimisées, et il y avait eu une réduction significative en utilisant évidemment du biocarburant, du SAF. Il y avait eu un gain de, je sais pas, 60% de.
Il y a des tracteurs électriques aussi qui permettent d'amener les avions au seuil de piste. Donc on n'utilise pas les réacteurs.
Il y a un plan hydrogène de l'État qui justement vise à équiper les aéroports d'appareils fonctionnant à l'hydrogène. Il y a plein de choses qui se mettent en branle. Les avions maintenant ne circulent plus au sol qu'avec un seul réacteur. Il y a des tracteurs électriques. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites pour limiter les émissions.
L'avion à hydrogène ne va pas être applicable pour des longs courriers. Et la part d'émissions de gaz à effet de serre en France des longs courriers, c'est 76%.
Alors,
même en développant ça, on n'a pas résolu le problème de la majorité
avec vous
des
du
émissions
tout,
de gaz
sur
à
le,
effet de serre.
Je ne suis pas d'accord avec vous du tout sur le long courrier. C'est parce que si vous avez une technique qui s'applique au moyen courrier, elle sera étudiée pour le long courrier.
L'efficacité énergétique de l'hydrogène est moindre, 4 fois moindre que l'efficacité énergétique du kérosène.
En tout cas, au moment où nous parlons,
on aura besoin de réservoirs plus grands. La seule étape importante, c'est d'arriver à conserver l'hydrogène liquide et de pouvoir l'emporter en vol.
Vous voyez
après, c'est juste une question de taille. Hein.
Il y a des questions techniques, en tout cas, à résoudre, des questions politiques aussi, sachant que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, notamment donc sur le transport aérien, qui ont amené Emmanuel Macron à exposer ce que je rappelé tout à l'heure, devront être repoussés en raison de la crise économique causée par la pandémie de Covid. C'est ce qu'a déclaré jeudi dernier la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui dit ceci. Il s'avère que sur la taxation de l'aérien, le président a dit que le secteur a été durement touché, ce que ne savaient pas les citoyens quand ils ont fait leurs propositions, puisqu'ils les ont travaillées avant la crise du Covid. Donc, en guise de conclusion, permettez-moi de penser que le coronavirus, finalement, aurait donc sauvé la mise à l'aviation en même temps qu'il la plonge dans la plus grave crise de son histoire, ce qui ne manque pas de paradoxe et d'ironie. C'était le débat du jour sur Radio France Internationale. Merci à vous trois pour votre participation, vos commentaires et vos éclairages avisés.
Envie d'une boisson